Nous allons commencer par la prière. Merci Père éternel de ton œuvre à la croix. Tu as envoyé ton Fils et nous sommes à son bénéfice et nous disons et nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier et nous voulons que ce matin tu nous parles à travers ce que tu as prévu pour nous et que nos cœurs puissent être à l'écoute de ce que ta parole a à nous dire. Et nous prions que tu viennes à notre rencontre ce matin, là où nous sommes. Au nom de Christ. Amen. Avez-vous pris un rendez-vous avec Dieu? Avez-vous déjà rêvé pouvoir où Dieu puisse vous fixer un rendez-vous? Est-ce que vous auriez aimé que Dieu vous fixe un rendez-vous? Ou est-ce que vous avez trop peur de le rencontrer? Je vous vois hésitant. Avez-vous imaginé qu'il puisse vous donner rendez-vous dans un café pour vous raconter sa vie, ses joies, ses peines, son amour pour vous, sa souffrance pour le mal, qu'il voit, qu'il vous raconte ce qu'il est, ce qu'il vit? Paul Young a écrit un livre dénommé La Cabane. J'en ai parlé dimanche dernier. Il invite ses lecteurs à suivre une histoire qui amène Mac, le personnage principal du roman, à rencontrer Dieu à l'endroit où la souffrance de celui-ci est la plus forte, là où sa fille a été enlevée et sans doute tuée. Au-delà de cette histoire et de ce roman, nous sommes attirés, et j'ai été attiré dans ce livre, par l'envie que j'avais de parler à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de manière directe. Dieu vient à sa rencontre et lui parle dans cette cabane. Cette rencontre m'a touché et a touché beaucoup avant moi car elle personnifie l'invisible. Elle personnifie Dieu le Père, même si sa rencontre est impossible, nous le savons. Elle personnifie Jésus-Christ, qui est mort il y a 2000 ans. Et elle personnifie le Saint-Esprit, une personne douce et merveilleuse qui désire le meilleur pour nous. La lecture nous touche et me touche car elle m'a montré le besoin toujours plus grand de l'humanité de comprendre ce qu'il vit et de pouvoir en parler au Créateur. Cette lecture nous pousse dans les bras du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui vivent une communion ensemble toujours plus intense. Mais malheureusement, Dieu ne m'a pas donné rendez-vous dans une cabane. Il reste un être invisible et nous vivons cette réalité dans notre quotidien. Nous pouvons prier dans notre chambre, il n'en demeure pas moins invisible. Et nos prières nous paraissent souvent difficiles, comme une discussion qui devrait être avec le Père et pourtant nous avons du mal. Nous avons beaucoup de difficultés à prier régulièrement et à prendre conscience que la prière est une discussion avec un Dieu invisible. Quand nous pleurons, il n'est pas là pour nous prendre dans ses bras. Quand nos joies sont débordantes, il n'est pas là pour les partager avec nous physiquement. Sa présence nous manque cruellement. Elle manque cruellement à l'humanité tout entière, aux chrétiens, comme d'ailleurs aux non-chrétiens. Toute l'humanité crie après Dieu, après ce Dieu. La présence de Dieu nous manque à tous. Dieu nous manque. Les chrétiens définissent leur Dieu comme étant omniscient, comme sachant tout. Comment ne saurait-il pas alors qu'il que nous avons besoin de lui et qu'il nous manque. Même si nous avons besoin d'un Dieu tout-puissant, nous avons également besoin d'un Dieu accessible. Mais Dieu connaît nos besoins et il l'a comblé. Il l'a comblé par son Fils. Et je vous invite à découvrir les deux facettes de ce Fils, celui par lequel Dieu nous a parlé. Je vous invite à le rencontrer, non dans une cabane, mais au travers d'une lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à lire avec moi Hébreux 1 à 4, jusqu'au chapitre 2 et au verset 18. Comme la lecture est longue, je la segmenterai en trois fois, et en suivant le découpage de mes parties. Je vous invite donc à lire Hébreux 1 à 4 jusqu'au verset 2, au chapitre 2, verset 14. 1 à 4 jusqu'au verset 14, pardon. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Pour les anges, il dit, il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs, un feu flamboyant. Mais pour le Fils, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a conféré une onction d'huile d'allégresse à toi plus qu'à tes compagnons. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu demeures. Ils fuseront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un habit et ils seront changés comme un vêtement, mais toi, tu es le même et tes années ne finiront pas. Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied ». Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut ? Dieu, et nous avons pu le voir la fois précédente, est venu nous parler par son Fils. Ça, c'est les versets 1 à 4. Mais cette fois-ci, Dieu nous propose un rendez-vous avec lui par un être, son Fils, qui est Dieu lui-même. Et celui-ci est bien supérieur aux anges, nous dit notre passage. Christ a hérité d'un nom beaucoup plus remarquable que celui des anges, verset 4. Mais de quel nom s'agit-il ? Les anges ont le statut d'être créés, tandis que Dieu parle à propos de son Fils qu'il a été engendré, verset 5. Le terme « engendré » n'a jamais été identique à celui de « créer ». Le terme définit moins une relation éternelle qu'à l'incarnation du Christ, né comme un être humain. Le Fils n'est donc pas un être créé, il exista de toute éternité avec le Père. C'est ce que les premiers chrétiens avaient énoncé dans le symbole de Nicée. Cet être, Dieu l'appelle son Fils, verset 5 bis. Aucun ange n'a bénéficié de ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Le Fils bénéficie en outre de l'adoration des anges, verset 6. Il est un sujet de leur adoration. Quant à eux, ils sont des serviteurs, verset 7. Son statut royal et son règne lui confèrent une autorité et une puissance certaines, verset 8. Dieu déploie ses caractéristiques intrinsèques par ce Fils qui est éternel, juste, éternel, verset 9. Ce Fils est également le Créateur de l'univers, verset 10. L'auteur de l'Épître aux Hébreux expose de manière toujours plus claire et limpide ce qu'il avait introduit dans ses premiers versets. Ce Fils est l'empreinte de la réalité même de Dieu. Sa puissance et son autorité sont totales sur les êtres créés, y compris sur les anges. La comparaison entre les anges et le Christ est saisissante. Les anges font pâle figure en comparaison du Christ. Christ est tellement supérieur à eux qu'il semble complètement aberrant de pouvoir les adorer les anges. Les anges, en effet, ne sont que des serviteurs et des ministres à notre bénéfice, nous dit le texte. En effet, leur job est pour les croyants. Ils travaillent, nous dit le texte, verset 14, la fin de notre passage, en faveur de ceux qui vont hériter le salut. En faveur des hommes, comme moi, comme tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur l'origine du monde, sur Dieu. Les anges ne cherchent pas à tomber amoureux des femmes, comme faire la cité des anges, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou à jouer les psys comme Joséphine l'ange gardien. Non, les anges protègent et agissent en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Adorer les anges n'a donc aucun sens. Ils sont des êtres au service de Dieu pour nous. Ils sont en quelque sorte des intermédiaires pour notre salut. Mais pourquoi l'adoration des anges posait un si grand problème à l'époque de la rédaction de cette lettre? Car aujourd'hui, vous pourrez me dire, cela n'a que peu d'intérêt pour nous. Encore que certains, encore aujourd'hui, fassent du spiritisme et invoquent des esprits quand ils souhaitent avoir une réponse divine. Mais ça, c'est un peu différent. Il semble assez évident que chacun d'entre nous n'a aucun problème d'adoration pour les anges. Pourtant, à l'époque, les premiers chrétiens, sans doute, d'origine juive, étaient en proie à ce problème. Dans leur pensée, les anges étaient des êtres puissants, capables de choses extraordinaires. Beaucoup de passages de l'Ancien Testament le montraient. Leur connaissance de Dieu leur venait de la loi. Cette loi avait été transmise à Moïse par des anges. Paul nous l'énonce en Galates 3:19. Étienne, dans son discours, en face des Juifs, leur rappelle également ceci, au verset 38. C'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Ils avaient joué le rôle de porte-parole de Dieu et d'intermédiaire. Et à ce titre-là, il était en quelque sorte la base de leur ancienne foi, la parole de la loi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle, l'œuvre des anges concerne la parole, au chapitre 2, verset 2. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, c'est la suite de notre passage et nous le lirons tout à l'heure. Pour eux, la connaissance de la parole de Dieu ne pouvait se faire sans eux. Et certes, Jésus-Christ était Dieu, mais était-ce suffisant? Sans l'intermédiation des anges, ils n'auraient pas pu connaître Dieu, et c'était leur pensée. Les anges étaient donc indispensables. Vu sous cet angle, nous ressentons que le problème se rapproche de nous. Non que nous soyons prêts à adorer des anges, mais à adorer des intermédiaires. Adorer, soit pour être plus explicite, considérer comme ayant une telle importance qu'elle soit susceptible d'avoir toute notre considération et une place presque numéro un. Mais dans nos vies, n'y a-t-il pas des intermédiaires qui ont pris une place à Dieu? Non qu'ils aient à proprement pris intégralement la place à Dieu, mais qu'ils sont devenus incontournables pour notre relation avec Dieu. Comme les anges l'étaient pour les destinataires de cette lettre, n'y a-t-il pas des gens ou des choses qui sont devenus des moyens indispensables pour connaître Dieu? Sans ces choses, je ne peux pas comprendre sa parole. Sans eux, je ne suis pas assez fort pour comprendre sa parole. Bref, j'ai besoin d'eux et ça me va bien. Ça me va bien car je peux me reposer sur eux. Je peux vivre une vie chrétienne par procuration. Je peux me satisfaire d'une connaissance de Dieu très pertinente, même si cela n'est pas la mienne. J'ai besoin de mon pasteur pour ses exhortations. J'ai besoin de mon guide de lecture de la Bible pour comprendre la parole de Dieu. J'ai besoin de mon mari pour prier. J'ai besoin de ma femme pour passer du temps avec Dieu. J'ai besoin de mes enfants pour retrouver un temps pour Dieu. J'ai besoin d'un repas pour passer 30 secondes dans la prière. En fait, Dieu n'est pas si simple à atteindre. Et c'est pour cela que je ne veux plus me passer de certains serviteurs que j'adule, que j'aime beaucoup, et qui pour moi sont vraiment indispensables. Sans eux, je ne sais pas ce que je ferais. Pourtant, ces choses et ces personnes ne sont que des serviteurs et que des pâles individus ou choses en regard de celui qui est tout. Christ nous désire à nous. Il désire une rencontre avec nous personnelle. Lui, nous dit le texte, le Fils de Dieu. L'amour immense du Père. La personne que Dieu le Père préfère à toute chose. Celui en qui son affection est à son paroxysme. Celui qui est le but de tout. Face à cela, mes petits intermédiaires font pâle figure. Lui, le vrai roi de justice, nous dit le texte, lui seul est à même de nous donner la condition à laquelle notre nature humaine soupire, à savoir la vie dans un royaume qui est caractérisé par la droiture et la justice. Notre soif de justice ne sera jamais assouvie par nos œuvres, par un gouvernement ou je ne sais quelle action ou personne, mais par Dieu lui-même. Lui, nous dit le texte, le créateur de l'univers, des étoiles, de l'humanité, de moi, celui qui m'a créé. Aujourd'hui, ma vie ne tient que parce que l'univers est dans sa main et qu'il en est le créateur. Reste à savoir si j'en ai pris la mesure, ou si parfois il me faut un peu de cash dans mes poches pour assurer mes arrières, ou quelques immeubles par-ci par-là, ou une famille qui tient à moi pour me rassurer pour les années futures. Quelle est ma compréhension profonde et pratique de Christ comme créateur? Cela aura des conséquences immenses sur ma foi. Lui, le Fils éternel, tout passe, mais une chose reste, nous dit un chant pour enfants que je chante souvent avec Nathan, à savoir la parole de notre Dieu. Et cette parole incarnée, c'est Christ. Christ est donc éternel. Même si cela ne me semble pas changer grand-chose dans ma vie, cela pourrait changer des choses si ma vie avec cette nouvelle perspective, à mon travail, avec mes potes de classe, parmi mes élèves, mon témoignage de Christ me serait d'autant plus pressant. Christ est donc une personne à remettre à la bonne place, à cause de ce qu'il est. Toutes les choses ou personnes doivent suivre. Car un enjeu est important. Et là, à notre porte, c'est la suite de notre passage qui nous l'indique. Je vous invite à lire versets 1 à 4 du chapitre 2. C'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, de toutes sortes et des communications d'Esprit Saint selon sa volonté. Jésus-Christ, un homme que l'on ne peut rencontrer demain, un homme avec laquelle la rencontre ne peut être repoussée à demain. L'auteur ne mâche pas ses mots pour alerter ses auditeurs. Nous pourrions reformuler ce cri de la manière suivante. Vous faites confiance à la parole des anges, alors vous devriez prendre encore plus au sérieux celle du Fils. Non seulement la parole dont les anges ont été les vecteurs, c'est accompli, à savoir que la loi a bien été en vigueur. La loi a mis en évidence toutes les mauvaises actions, les actes de désobéissance des hommes et des femmes. Par cette loi, ces actes ont reçu une juste punition. Cette loi fait donc son œuvre, à savoir de mettre en évidence l'incapacité humaine d'accomplir cette loi. Pourtant, vous vous attachez toute votre attention sur cette loi. Alors, à plus forte raison, comment ne pas prêter attention à une parole de salut, nous dit l'auteur, de délivrance qui serait apportée par l'entremise du Seigneur ce Fils de Dieu sur une loi qui vous condamne. En plus, des témoins vivants ont appuyé l'annonce de ce grand salut, et notamment les premiers auditeurs de Jésus, ses apôtres et tous les disciples à sa suite. Ces confirmations humaines à propos de ce salut et de cette délivrance ont en outre, nous dit le texte, été appuyées du sceau de Dieu, et cela par des signes, des miracles de toutes sortes et une œuvre de l'Esprit toute-puissante. L'appel est solennel. Vous attachez une importance capitale à la parole des anges qui a permis à la loi d'être annoncée au peuple, une parole de jugement sur la méchanceté des hommes, et vous laissez de côté une parole divine du Fils de délivrance sur votre sort dépravé et vous permettant d'être sauvé du jugement même de la loi. Le Seigneur en a parlé, des hommes en ont été témoins de manière écrite. Dieu a approuvé leur transformation par des signes, des miracles en tout genre. Ne méprisez pas la parole du Fils. Elle seule est la source de délivrance. Elle seule nous ouvre les portes de Dieu. Elle seule nous permet de renouer le contact avec Dieu. Vous pouvez vous attacher à la loi pour votre conduite, pourtant ne négligez pas ce qui peut vous sauver, à savoir le Fils. Rien de nouveau sous le soleil. Les auditeurs de notre auteur étaient en proie à un retour en arrière. Même si notre passage ne l'explicite pas ici, la dérive semblait assez proche. La foi qu'ils avaient acceptée en Jésus-Christ ne semblait plus complètement suffisante et les anges devaient avoir une place dans leur salut. La dérive était proche pour l'auteur. Une dérive si grave qu'elle pourrait les amener à une chute irrémédiable qu'il expliquera dans les chapitres prochains. C'est pour cela que l'auteur ne peut laisser passer cela. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Pour illustrer la situation de ces auditeurs, j'aimerais vous raconter la vie par laquelle ils auraient pu passer aujourd'hui pour en arriver là où ils sont. Une vie chrétienne qui glisse tout doucement, initiée par un changement radical, peu à peu elle est modifiée et sans le voir presque de manière imperceptible, tend à revenir à son point de départ, son ancienne vie. Parfois, notre conversion est lointaine. Nos années de vie chrétienne ont au fait de nous faire revenir à la réalité de la vie. Beaucoup moins tout feu, tout flamme que le départ. Non que cette période soit ce que Dieu recherche pour toute notre vie, mais pourtant cela semble lointain pour nous aujourd'hui. Notre travail est prenant et il nous semble que les journées sont toujours trop courtes pour s'occuper de ses enfants, de son mari, de sa femme, de nous-mêmes, et de faire tout ce que nous attend la maison. Notre rythme effréné, imprimé par nous-mêmes et par notre société, avec ses médias toujours plus intrusifs dans notre chez-soi, diminue le temps alloué à nos relations. Souvent la relation avec nos amis, notre époux, notre épouse, empathie de manière imperceptible. Le temps nous semble trop court et nous courons après. Les quelques activités de l'Église nous poussent toujours en avant dans le service de Dieu. Pourtant, en nous-mêmes, c'est le désert spirituel qui s'installe doucement. Sans pouvoir, bien sûr, se le cacher à soi-même, nous vivons avec. Nous aspirons à des changements. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimons l'autoflagellation du dimanche, quand le prédicateur nous dit que nous manquons de foi, manquons de consécration dans la lecture de la Bible et de la prière. En effet, il nous rappelle au tréfond de notre être que nous pouvons y arriver et qu'il n'en faudra pas beaucoup pour changer. Pourtant, rien ne change. Et la descente se fait tranquillement, imperceptible. Notre relation avec Dieu n'est plus qu'un vœu que nous renouvelons chaque année, la veille du nouvel an. Mais tout ça nous ronge de l'intérieur. L'Esprit travaille ce que nous sommes. Et nous sommes tourmentés de cette situation. Nous pensons alors que peut-être qu'il nous faudrait quelque chose pour nous aider dans cette situation. Nous cherchons désespérément une branche à laquelle se raccrocher. Et c'est peut-être là où en étaient arrivés les destinataires de cette épître. Christ ne semblait plus suffisant pour eux. Ils revenaient à leur tradition et à la transmission de la parole par des anges. Les anges étaient peut-être ces branches sur lesquelles ils espéraient tant compter. Attention ce matin. L'auteur de l'épître aux Hébreux renouvelle son appel pressant. Il ne veut rien, si ce n'est une seule chose. Vous et nous. Vous êtes son désir. Il attend de vous une relation personnelle. Il aimerait que vous puissiez aller le rencontrer dans un lieu, la cabane pour les uns, votre chambre pour les autres. Un lieu où tout s'arrêterait, où la communication pourrait durer des heures sans que cela vous lasse. Jésus nous demande de chercher après lui, après ce qu'il est, et il nous demande toute notre attention. Pas d'intermédiaire foireux, mais il veut nous. Il nous veut nous. Mais comment est-ce possible quand le Dieu qui parle, certes par un fils, nous semble lointain? Mais non, le Père nous connaît et c'est pour cela qu'il devait envoyer son fils dans notre condition. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils sur la terre. Je vous invite à continuer la lecture du verset 5 jusqu'au verset 18. Car ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. En lui soumettant tout, en effet, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement par des souffrances le pionnier de leur salut. Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, moi je montrerai ma confiance en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi pareillement a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre, compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Après cet appel solennel à ne pas revenir en arrière, l'auteur revient à sa comparaison entre les anges et le Fils. Mais une comparaison cette fois-ci toute particulière. Les anges ont certes une position élevée en qualité d'être spirituel par rapport aux hommes. Pourtant, cela ne leur donne pas pour autant une supériorité par rapport au Fils de Dieu qui s'est fait homme. D'ailleurs, la domination du monde à venir n'a pas été donnée aux anges, nous dit le texte, Mais comme le dit le psaume, la domination a été donnée à l'homme. Le psaume dont il est fait référence montre clairement que l'homme bénéficie d'une gloire particulière. Ce psaume, de manière très étonnante, n'a pas premièrement une visée sur le Christ. Il part du statut de l'homme en général. Et il est très intéressant car il nous rappelle les caractéristiques comment Dieu nous avait créés. Notamment, un peu inférieur aux anges, couronné de gloire et d'honneur, et il avait tout mis sous nos pieds. La conclusion de l'Épître aux Hébreux est que, en lui soumettant tout à l'homme, en effet, il n'a rien laissé qui lui soit soumis. L'homme est donc bénéficiaire d'une gloire et d'un honneur conséquent. Pourtant, devant ce constat majestueux, quelque chose cloche. Maintenant, certes, dit l'auteur, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. La défaillance de l'humanité et son péché semblent sonner la fin de cet état merveilleux. La gloire était donnée à l'homme au départ et le pouvoir associé à la qualification d'image de Dieu et de fidèle représentation de Dieu. Pourtant, le péché est venu ternir de manière indéniable cette autorité de l'homme. Ainsi, le mal a pris une réelle autorité sur l'homme et l'homme est devenu capable comme Dieu de connaître le bien et le mal. Toutefois, il en a été asservi à faire le mal. Esclave, toute une vie durant, nous dit l'auteur. La désillusion a entraîné à sa suite toute l'humanité. Rien ne semble plus soumis à l'autorité des hommes. Pourtant, le verset 9 augure une transition dans l'explication de l'auteur. En effet, malgré que nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, un autre homme qui a été lui aussi fait de peu inférieur aux anges, un certain Jésus, lui a été couronné de gloire et d'honneur par Dieu par un acte précis dans l'humanité, à savoir la mort par laquelle il a souffert. Comme un cadeau de Dieu, nous dit l'auteur, elle est transmise à tous les hommes. Ainsi, Dieu le Père avait décidé de toute éternité de conduire ses fils à sa gloire. Pour cela, il devait pourvoir à un sauveur, un pionnier, une personne qui ouvre le chemin par ses souffrances. La consécration devait être issue d'un seul, d'un pionnier, d'un homme. C'est à ce titre-là qu'il n'a aucune honte de les appeler ses frères. La même chair, le même sang ont caractérisé le Christ et les hommes, et cela pour une raison précise. Le but était de partager, à travers une condition similaire et sa mort, deux objectifs clairs, nous dit l'auteur. Réduire à rien celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir le diable, délivrer tous ceux qui étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie du fait de la crainte de la mort. Ils ne viennent donc pas sauver des anges, mais des hommes, ceux qui sont d'Abraham, de la même nature que lui, qui lui ont été asservis par leur désobéissance. Ainsi, il est devenu leur frère, pour être le grand prêtre, compatissant et digne de confiance, pour l'expiation des péchés du peuple, nous dit l'auteur. Par sa mort, sa souffrance et sa mise à l'épreuve, il peut donc secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. C'était là la nécessité d'un Dieu qui s'incarne, qui reprend le plan initial de Dieu pour l'homme, à savoir une autorité totale sur la chose créée, cette fois-ci en l'accomplissant. Le Fils, en venant sur terre, s'est rendu glorieux par sa mort. Le Fils n'est pas resté étranger à nos mal-être intérieurs devant la mort. Non, il a intégré, il a appréhendé, il l'a demandé si celle-ci pouvait s'éloigner de lui. Pourtant, il a dû passer par celle-ci. Cette mort, ce passage sur terre était donc nécessaire pour qualifier un grand nombre. Ainsi, Christ, en venant sur terre, nous donne la possibilité de renouer une relation avec le Père, et cela en donnant la possibilité de nous appeler ses frères. À travers donc son humanité, le Christ redonne la gloire à l'homme et la domination sur tout. Il rétablit la situation initiale. Il prend la condition de l'homme que je suis, avec ses forces, ses faiblesses, ses souffrances et ses doutes. Cet homme, le Christ, est devenu le moyen par Dieu pour s'approcher d'une humanité qui le croyait lointain. Le Christ est venu à notre rencontre. Il se révèle dans sa splendeur, non comme un roi victorieux, mais comme un humble serviteur, venu pour nous sauver de la boue dans laquelle nous étions. Et cela non par un rétablissement puissant et glorieux de son autorité, mais par sa mort, qui vient réduire son plus grand ennemi, à savoir le diable, qui nous maintenait sous sa coupe, en esclavage. Sans doute le sujet qui fâche le plus. Que nous le voulions ou non, que nous soyons athées ou chrétiens de nom, au très fond de nous-mêmes, nous savons que la peur de la mort nous rend esclaves de cette condition dans laquelle nous sommes. Cette humanité court après une vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. Celle-ci n'est pas satisfaite de sa propre existence. Le moment présent n'arrive pas à être une fin en soi, et la mort n'est toujours que repoussée au très fond de notre pensée, connaissant pourtant l'issue inéluctable et douloureuse. Vous êtes esclave, dit. Tu es esclave, dit Morpheus à Neo dans le film Matrix, qui vient de découvrir que le monde réel est non la matrice qui est le monde que l'on a superposé à son esprit. Vous êtes l'esclave, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Que vous vous croyez libre de faire ce que vous semblez ne change rien à ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire le bien en vous-même, et vous savez que si vos actes semblants ont un semblant de cohérence et de justice, votre conscience ne fait que vous trahir chaque jour. Jésus-Christ est venu nous délivrer de l'esclavage de la mort et du péché, et de l'emprise du diable sur ce péché et sur nous-mêmes. Mais pour cela, il veut que nous acceptions notre condition. Ce n'est pas tout. Christ, de par sa condition humaine, est devenu le grand prêtre pour nous. Sans développer cette idée qui sera largement reprise après, il est toutefois passé par une épreuve immense qui le qualifie aujourd'hui pour nous secourir dans nos épreuves. Christ n'est pas absent de nos souffrances. Christ n'est pas absent de nos épreuves. Christ n'est pas absent et étanche à ce que nous vivons. Non, il a vécu. Il a vécu des souffrances bien supérieures aux nôtres. Pourtant, il ne veut pas dénigrer nos vies, bien au contraire. Il veut nous entendre. Il veut passer du temps avec nous pour que nous épanchions sur lui, nos vies. Son humanité l'a qualifié pour nous secourir. Voilà le Dieu que nous avons. Charles Colson, grand avocat et prestigieux conseiller du président Nixon, a, suite à l'affaire du Watergate, passé une période prolongée en prison pour avoir été complice des écoutes téléphoniques. Loin d'imaginer l'enfer qui se cachait derrière ses murs, il a souffert, mais comme il le dit, a pris plus qu'en 20 ans de vie bien tranquille assis sur les bancs de son église. Il a appris la condition de prisonnier, et quand il est sorti de prison, sa vie a été transformée. Sa soif de pouvoir et de prestige a été rejetée pour laisser la place à une compassion immense pour les prisonniers. Il a donc fondé une association, Amitié Prison, qui a eu des effets bénéfiques sur des milliers de prisonniers, avec des dizaines de conversions où l'annonce de l'Évangile a été proclamée. Le partage de la condition de prisonnier lui a permis d'appeler les prisonniers ses frères. C'est un peu la même chose pour Christ, et c'est pour cela que nous devons le rencontrer. Dieu n'est pas venu nous rencontrer dans une cabane. Il ne nous a pas donné rendez-vous dans un café pour discuter avec nous. Lui qui était infiniment plus grand que les anges en qualité de fils a décidé de venir à la rencontre de l'humanité qui criait après lui. Il est venu sur terre il y a environ 2000 ans, malgré sa condition divine de fils de Dieu. Sur cette terre, il n'a pas été un surhomme, mais tout simplement le Fils de Dieu. Et sa rencontre avec les gens de l'époque a eu des effets énormes. Il guérissait les malades, il exorcisait certains, il ressuscitait les morts. Mais de cette vie, en tant qu'homme, il a découvert quelque chose. Sans doute de nouveau. Même si l'on ne peut considérer que Dieu ne connaisse pas tout, il me semble juste, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le confirmera plus tard, nous pensons à juste titre, et je pense à juste titre, qu'il a découvert les conséquences du péché sur sa vie. Non qu'il a été péché, qu'il a commis de péché, mais il a souffert les conséquences du péché sur sa vie, et notamment la souffrance, l'épreuve et la mort. Cette découverte, ces découvertes sans doute les plus douloureuses avec la séparation d'avec Dieu sont celles qui l'ont qualifié comme un vrai sauveur pour nous. Par cette vie sur terre, par sa mort, il nous devient possible d'appeler Dieu Père par l'intermédiaire du Fils qui nous qualifie comme ses frères. Il nous donne la capacité d'être libérés de l'esclavage, de la peur de la mort, pour nous ouvrir les portes d'une vie qui n'a pas de fin avec lui. Pourtant, dit l'auteur, certains font en proie à délaisser ce grand salut. Certains sont en proie à revenir à leur histoire d'avant. Peut-être pas de manière brutale, mais de manière imperceptible. Et c'est ce qui guette la vie de nombreux chrétiens aujourd'hui. Dieu désire nous rencontrer. Dieu désire nous donner un rendez-vous. Sûrement pas sur Facebook ou sur Mythic, mais dans un lieu secret. Et il nous attend. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois que tu as soif. Tu as un grand désir de prendre rendez-vous avec nous. Tu vois que nous sommes remplis d'activités, remplis de choses à faire, de nouvelles choses à découvrir. Pourtant, tu désires prendre rendez-vous avec nous. Et nous soupirons aussi à un rendez-vous avec toi, mais tu vois nos faiblesses et notre incapacité à appréhender souvent l'invisible. Et donne-nous de pouvoir prendre du temps avec toi, qui nous donne un rendez-vous quotidien. Donne-nous de prendre conscience de ta présence. Tu es là. Tu es là. Par ton esprit, tu es là. Tu rends accessible Jésus à nos côtés. Donne-nous, Père éternel, cette grâce qui nous permet de répondre à ce rendez-vous que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.